le magazine des Nations Unies.
La rumba, bien sûr dans le patrimoine immatériel de l'humanité, l'UNESCO accepte le processus et encourage les États à accélérer le dossier. Les détails dans ce numéro des Nations Unies. Journée de la liberté de la presse, l'UNESCO se fait le défenseur du droit d'accès à l'information pour les journalistes congolais. Ces derniers ont exprimé leurs préoccupations face aux difficultés d'accès à l'info. C'était lors de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies, mercredi dernier. Une autre journée mondiale célébrée le 5 mai, c'est celle des sages-femmes. Les sages-femmes abattent un travail que beaucoup ignorent, estime le président national de l'Association des sages-femmes du Congo. Il est l'invité de notre magazine. Voilà tout pour les sommaires.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue au magazine des Nations Unies. En rapport avec l'œuvre musicale de l'artiste congolais Papa Wemba, en réaction à la demande du ministre congolais de la Culture, l'UNESCO accepte d'enclencher le processus du classement de la rumba comme patrimoine immatériel de l'humanité. C'est en tout cas ce qu'a reconnu le chef de bureau et représentant de l'UNESCO en RDC. Jean-Pierre Lalive, vous êtes là pour nous en parler. Bonjour.
Bonjour Tina. Monsieur Abdourahamane Diallo s'exprimait mercredi dernier lors de la conférence de presse Hebdo des Nations Unies. Il faut dire, Tina, que le processus est enclenché. Certains pays comme la République du Congo d'en face, l'Angola et même d'autres pays de l'Amérique latine soutiennent le projet. Je ne vous en dis pas plus. Je vous propose d'écouter les représentants de l'UNESCO en RDC.
Le processus est déjà en cours pour que la rumba soit en fait inscrite comme élément immatériel au niveau de la région. La RDC, le Congo-Brazzaville et même l'Angola vont introduire et soumettre la candidature de la rumba comme élément immatériel du patrimoine de l'humanité. Mais c'est en bonne voie, il y a juste un exercice technique qui doit être fait ici par le ministère de la Culture. Il s'agit de commencer par un exercice d'inventaire. Après, le processus suivra. Ce dossier est soutenu par plusieurs pays, voire avec des pays aussi d'Amérique latine aussi qui appuient l'inscription de la rumba comme patrimoine de l'humanité.
L'autre actualité de la semaine qui s'achève, Jean-Pierre Elali, c'est en tout cas la journée mondiale de la liberté de la presse. C'était le mardi 3 mai dernier. Le thème de cette année, l'accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit, a donc constitué l'un des points de la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier. Les journalistes ont exprimé leurs préoccupations sur les difficultés d'accès à l'information en République démocratique du Congo. L'UNESCO RDC se fait le défenseur de ce droit des journalistes pour débloquer la situation. Vous nous en parlez, Jean-Pierre Elali.
Oui, les journalistes présents à ces rendez-vous hebdomadaires ont été unanimes. Ils ont de la difficulté d'accéder aux sources d'information, notamment dans les sphères politiques et étatiques. Comment débloquer cette situation qui prive aux journalistes son droit d'informer? Le représentant de l'UNESCO en RDC, M. Abdourahamane Diallo, explique le rôle de son organisation à ce sujet.
Tous les journalistes, nous le défendons tous ensemble, l'UNESCO et l'ensemble des agences du système des Nations Unies et des partenaires. Vous savez que la loi est passée au mois de novembre dernier pour l'accès à la liberté de l'information. Et nous essayons de nous assurer dans les actions que nous menons avec les différentes entités, l'UNPC, l'Observatoire des médias et les différentes associations et entités qui travaillent dans le domaine des médias, à ce que cet accès soit effectif.
Il faut noter que tous les ans, la Journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer cette liberté à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession.
Enfin, Jean-Pierre, un autre fait d'actualité, volet humanitaire cette fois-ci, c'est dans l'ex-province du Katanga. Ocha signale plus de 65 000 déplacés internes recensés dans le territoire de Poito et de plus de 650 000 personnes en insécurité alimentaire chronique sévère dans le Haut-Katanga. Plus d'informations avec Honoré Missenga Kalala.
Ces données chiffrées sont contenues dans le dernier rapport d'OCHA couvrant la période allant du 27 avril au 5 mai 2016. Le territoire de Poito compte 65 390 déplacés internes, dont 7 300 sont hébergés dans 7 sites spontanés. Ces sites sont ceux des Kakonona, Kipeto, Lukonzoloa, Luante Tété, Mpenge, Mutabi et Mwashi. La plupart de ces déplacés avaient fui les incursions des Mai Mai Bakatakatanga entre 2012 et 2013, ainsi que les affrontements ayant opposé ces derniers à l'armée congolaise dans le triangle dit de la mort, Manono, Mitwamba et Pweto. D'autres, comme près de 400 toits ou pygmées, auraient fui les attaques perpétrées par les populations Bantou-Luba, selon la même source. À ces mouvements des personnes, Ocha fait part d'autres besoins qui nécessitent des réponses humanitaires. Dans le domaine sanitaire notamment, la moitié des zones de santé que compte l'ex-province du Katanga est touchée par le choléra. Persistance du choléra, mais aussi persistance de l'insécurité alimentaire. 15% de la population de la province du Katanga, soit 659 000 personnes, souffrent d'une insécurité alimentaire chronique sévère, signale Ocha.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le gouvernement allemand finance, dans le contexte électoral actuel, la mise en œuvre d'un projet visant essentiellement la protection des acteurs de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme. Un projet qui sera exécuté en partenariat avec l'ONG Avocats sans frontières, le Centre Carter et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Monsieur Jocelyn Léon est le chef de mission d'Avocats sans frontières en République démocratique du Congo. Il répond aux questions d'Honoré Musenga Kalala dans cet entretien. Suivez.
Monsieur Jocelyn Léon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de mission d'Avocats sans frontières en République démocratique du Congo. Vous avez signé la semaine dernière avec l'ambassade d'Allemagne une convention de financement pour la mise en œuvre d'un projet. De quel projet il s'agit?
Aujourd'hui, nous sommes en phase de lancement de ce projet. Il s'agit d'un projet visant la protection des droits humains. C'est un projet qui est mené en consortium entre trois organisations internationales, Avocats sans frontières, le Centre Carter et bien évidemment le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce projet se décline en trois parties. La première, c'est le soutien à la société civile pour permettre l'observation et la dénonciation des violations des droits de l'homme. La deuxième partie, c'est la protection directe et légale des défenseurs des droits de l'homme, pour permettre notamment de les représenter devant la justice congolaise en cas de menace. Et la troisième, c'est l'appui à des cadres de coordination et de protection au niveau de la société civile, notamment les pousser et les appuyer dans le plaidoyer pour la question de la protection des droits de l'homme.
Ça, ce sont les objectifs de ce projet. Alors, quelle est votre feuille de route par rapport à ce projet? Donc, les différentes actions concrètes que vous allez devoir réaliser.
Tout d'abord, nous allons commencer par étudier sur le terrain les besoins et ce sera notamment le travail de notre partenaire, le Centre Carter, qui va pouvoir approcher les organisations de la société civile et détecter les besoins qu'elles ont en termes de renforcement de capacité et comment est-ce qu'on peut les appuyer pour mieux observer les violations des droits de l'homme et les dénoncer et pour pouvoir mieux se structurer, pour pouvoir appuyer leurs défenseurs des droits de l'homme au niveau local, au niveau communautaire, dans le cas de menaces. Ensuite, lorsque nous avons d'autres niveaux de menaces, là c'est le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme qui intervient et qui peut directement prendre en charge des cas pour protéger ses défenseurs de manière directe. Et lorsque ces défenseurs sont conduits devant les tribunaux de gré et parfois de force, c'est Avocats sans frontières qui met à leur disposition des avocats chevronnés pour pouvoir défendre leurs droits en tout état de cause.
Avocats sans frontières, quelle est sa mission ?
Avocats sans frontières, tout d'abord, c'est une organisation non gouvernementale internationale de droit belge qui a été créée en 1992 à Bruxelles. Elle agit au croisement entre la promotion des droits humains et l'aide au développement. Et sa mission principale est d'améliorer l'accès à la justice, surtout pour les personnes les plus vulnérables, afin que les mécanismes de justice soient effectifs. Ensuite, notre deuxième mission, c'est aussi d'améliorer les mécanismes d'aide légale pour les plus indigents. Notre troisième mission est de pouvoir renforcer les capacités des avocats, des barreaux et aussi des ONG, de la société civile. Et enfin, notre quatrième mission est d'améliorer les cadres législatifs et normatifs, mais aussi les politiques en matière d'accès à la justice et donc là, en collaboration avec le gouvernement.
Depuis combien de temps vous opérez en RDC?
C'est en mars 2002 qu'Avocats sans frontières a ouvert sa mission permanente en République démocratique du Congo. Les moteurs de notre intervention à l'époque étaient la valorisation du droit et du recours à un système judiciaire indépendant et de qualité dans le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, en plus de l'amélioration de l'accès à la justice que nous visons, nous avons trois thématiques prioritaires que nous développons dans ce pays. Le premier, et donc on s'est dit l'amélioration de l'accès à la justice de manière générale. Le deuxième est de promouvoir et défendre les droits humains. La troisième est de lutter contre l'impunité et notamment des crimes graves, tout ce qui est donc crime contre l'humanité, crime de guerre. Et enfin, nous avons un petit volet dans l'accès à la justice sur lequel nous prêtons attention, c'est sur la détention, parce que c'est une grave problématique en RDC et donc nous sommes vraiment là pour pouvoir accompagner l'administration pénitentiaire, mais aussi tous les acteurs qui gravitent autour de la détention, notamment les avocats.
Oui, par rapport à toutes ces thématiques, il y a eu des projets concrets.
Effectivement, bon, nous avons mené beaucoup de projets depuis ces dernières presque 15 années. Pour parler des projets récents, à l'heure actuelle, nous sommes en train de finaliser l'implémentation d'un grand programme qui a duré 4 ans à l'est de la RDC qui s'appelle Wakisafi, ou encore programme d'appui au renforcement de la justice à l'est de la RDC. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne et mis en œuvre directement par le gouvernement. Ensuite, nous avons un deuxième projet pour lequel nous avons l'appui de la coopération belge, la DGD, un projet sur la détention préventive, justement, qui a été conduit dans 4 provinces à l'ouest de la RDC, l'Équateur, anciennement l'Équateur, bien sûr, le Congo central et Kinshasa. Et ensuite, nous avons un troisième projet, qui est un projet international, donc nous avons aussi des actions dans d'autres pays, et ce projet est un projet qui vise la mise en application des dispositifs du statut de Rome, notamment tout ce qui est en matière de protection des victimes et des témoins.
Et si on demandait de faire un peu votre propre bilan par rapport au temps passé en RDC?
Alors écoutez, moi ça fait 2 ans que je suis là, hein, que je dirige la mission d'Avocats sans frontières en RDC. J'ai noté plusieurs avancées significatives, mais effectivement la route reste longue. Je peux vous citer un exemple d'un des progrès significatifs que nous avons pu observer sur le terrain. Dans le projet de détention préventive, nous avons implémenté ce projet donc. L'exemple de la prison de Matadi au Bakongo, nous avons appuyé les avocats pour sensibiliser les détenus, mais aussi pour les accompagner devant les chambres du conseil et pouvoir avoir soit leur libération conditionnelle, soit pouvoir régulariser leur détention, puisque comme vous savez, beaucoup des détenus le sont en qualité de détenus préventifs. Et donc, nous avons réussi à, grâce à notre appui, bien sûr aussi, avec l'appui du gouvernement, à pouvoir diminuer les taux de détenus préventifs de 65% à l'origine, avant le lancement du projet, à 40% en fin de projet. Donc, c'est prouvé, ça marche. On peut faire changer les choses, mais effectivement, il faut du temps. J'ajouterai peut-être une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en période préélectorale. Le climat est très tendu. Voilà, j'espère juste que les libertés publiques pourront être garanties dans cette période parce que c'est ainsi que, en termes de démocratie, on peut faire avancer les choses et que la justice est vraiment au service des citoyens.
Alors, vos rapports avec le gouvernement?
Écoutez, nous avons de très bons rapports avec le gouvernement. Nous maintenons des échanges étroits, autant au niveau du ministère de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature, et je vais vous donner un exemple aussi d'une initiative qui est en cours à l'heure actuelle, c'est le groupe thématique Justice et droits humains, qui est piloté par le ministère de la Justice et des droits humains, et Avocats sans frontières est partie intégrante de ce groupe de coordination des initiatives autour de la justice et des droits humains. Et nous devons appuyer ce cadre de coordination, et donc Avocats sans frontières est partie prenante pour pouvoir appuyer le gouvernement dans ces initiatives.
Oui, les relations sont bonnes, peut-être parce que vous n'êtes pas assez critique comme d'autres organisations, vous ne faites pas des rapports qui accablent le gouvernement.
Alors écoutez, nous avons notre ligne de conduite qui est tout d'abord de soutenir le gouvernement dans les initiatives qui visent à améliorer l'accès à la justice. Et là, nous travaillons en partenariat avec le gouvernement. Donc nous devons effectivement collaborer avec eux. En revanche, il y a une deuxième partie de notre travail qui est plus axée sur la question des droits de l'homme, où là, effectivement, nous ne sommes pas forcément en première ligne, mais nous appuyons les acteurs qui permettent d'observer et de réguler un petit peu ces observations. Enfin, je tiens à ajouter une dernière chose. Vous indiquez que nous ne critiquons pas le gouvernement, nous faisons des critiques ou des observations constructives basées sur des faits scientifiques. Et dernièrement, nous avons publié un rapport sur la détention préventive qui indique comment le processus interne à la prison est vraiment un processus de marchandisation qui vise les détenus. Et donc nous avons sorti ce rapport, lancé publiquement, le gouvernement est au courant, mais nous avons fait cela de manière vraiment professionnelle et scientifique basée sur des faits.
Monsieur Jocelyn Léon, merci.
Merci beaucoup.
Et nous ouvrons cette page de nouvelles en bref avec la visite, depuis le 24 avril dernier, d'une mission d'assistance électorale de l'ONU à Kinshasa. Cette mission est chargée d'examiner la nature du soutien des Nations Unies à la mise à jour du fichier électoral. La délégation onusienne est conduite par M. Ali Diabaté du département des affaires politiques de l'ONU à New York et sa mission va jusqu'à ce mardi 10 mai 2016. Depuis leur arrivée, les experts onusiens ont déjà rencontré divers acteurs étatiques et sociaux, notamment les membres de la CENI, les dirigeants politiques, les responsables de la société civile, ainsi que les partenaires internationaux. Cette mission d'assistance électorale est située dans le cadre de la résolution 2277. Et au sujet de la résolution 2277, une rencontre avec la presse a été organisée la semaine dernière à Uvira pour expliquer aux journalistes locaux sa quintessence. 37 journalistes ont pris part à cette rencontre organisée par la division de l'information publique de la MONUSCO. Monsieur Charles-Antoine Bambara, directeur de cette division, a aussi participé à cette rencontre. Enfin, un saut dans le Haut-Katanga pour vous annoncer que près de 330 cadres et agents de la PNC de la DGM sont en formation à Lubumbashi depuis le 29 avril 2016. Il s'agit d'une session de formation en police de proximité et des frontières assurée notamment par UNPOL, la police des Nations Unies, à l'initiative de l'Organisation internationale pour les migrations OIM et avec le financement du gouvernement américain.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Les sages-femmes abattent un travail que beaucoup ignorent. Les Nations Unies leur ont consacré une journée, le 5 mai de chaque année, pour honorer leur service, mais aussi promouvoir la sage-femme. En République démocratique du Congo, l'Association des sages-femmes du Congo se bat pour obtenir une loi relative à la profession, portant la reconnaissance des droits de la sage-femme. Ambroka Kabeya et Mme Lydie Mawelo, respectivement président national et présidente provinciale de cette association, sont prêtées aux questions de Jean-Pierre Edali Koko.
Monsieur Ambroka Kabeya, bonjour.
Bonjour.
Et Madame Lydie Mawelo, bonjour.
Bonjour.
Ce jeudi 5 mai, c'est la journée mondiale des sages-femmes. D'abord, une question de curiosité. Monsieur, vous êtes un homme à la tête d'une association constituée en grande majorité de femmes. Est-ce qu'il y a une raison, une explication pour cela?
Non, en fait, il n'y a pas une explication. Une explication qui est, par exemple, basée sur les genres ou quoi. Mais c'est forcément que c'est une profession à dominance féminine, comme vous le dites, mais qui intègre aussi les hommes. Il est vrai que les hommes sont vraiment minoritaires. Alors, il s'est fait que l'association, pour le moment qui court, a opté pour avoir un président comme moi, un homme. Alors, les sexes ne pèsent pas là-dessus pour dire que non, parce que c'est un homme, ou bien c'est une femme, non. C'est une profession qui réunit tout le monde.
Vous aidez les femmes à accoucher aussi, vous?
Oui, oui.
Alors, parlons un peu de votre association, donc l'association des sages-femmes du Congo. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Quels sont les objectifs de cette association et comment vous êtes organisé?
Ok, l'association est organisée par son juridique, il est reconnu partout en RDC. L'association a pour but de mettre d'abord toutes les sages-femmes ensemble, pour défendre la profession, pour quelque chose de moralité, de probité, pour faire la promotion de la santé de la mère et des nouveau-nés, comme on le dit très bien que l'union fait la force. Alors, c'est une association purement professionnelle qui fait la promotion de la profession, qui met les sages-femmes ensemble, qui lutte pour la probité, moralité de la sage-femme pour accomplir son travail.
Que votre association existe depuis combien de temps? Vous avez combien de membres?
L'association existe depuis l'an 2000. Il a obtenu sa personnalité juridique en 2001 sous l'égide de notre feu président Sami Samukungu qui nous avons vraiment dépensé pièces. Alors, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans depuis que l'association existe.
La tâche d'une sage femme n'est pas facile du tout. Elle est pourtant primordiale car c'est elle qui aide les femmes à donner la vie. Mais en RDC, son rôle semble légué au second plan, il faut le dire ainsi. Hein. Comment expliquer tout cela?
Vous savez, une sage femme qualifiée, c'est une professionnelle qui et de compétences pour dispenser aux femmes les soins empreints de compassion, les soins respectueux et sensibles aux valeurs culturelles. Durant la grossesse, l'accouchement, leurs compétences sont également importantes pour le nouveau-né durant le premier critique mois de la vie de l'enfant et contribuent notablement à la santé sexuelle et reproductive en général.
Alors, pourquoi son rôle est pratiquement ignoré dans la société?
Son rôle est ignoré, vous n'avez pas tort, c'est tout à fait vrai. La profession était d'abord diluée dans la profession infirmière. Vous savez, nous étions dans un pays où l'infirmier était un tout à faire. La sage-femme ne s'est pas démarquée toutes ces années parce qu'il était même formé à la section sciences infirmières, et à tel point même quand il terminait, on pouvait l'affecter dans n'importe quel service de l'hôpital. Alors cela a fait qu'on n'a pas pu reconnaître la tâche de la sage-femme. Mais aujourd'hui, parmi les luttes de la profession, de l'association, c'est de promouvoir la sage-femme, montrer que c'est elle la professionnelle de premier plan, indiscutable, de premier recours pour la femme avant la grossesse, pendant la grossesse, après l'accouchement, et voire même les soins du nouveau-né.
Quelles sont les difficultés qu'une sage-femme rencontre dans son métier?
Les difficultés se résument par rapport même à la réglementation de la profession. Comme vous le dites, une profession mal connue, alors vous comprendrez que la profession n'est pas réglementée, c'est-à-dire que le professionnel ne bénéficie pas vraiment de ses droits. En tant qu'un professionnel autonome, en tant que spécialiste de son domaine, avec son champ d'activité spécifique, alors il rencontre beaucoup de difficultés sur le plan technique, sur le plan légal. Pour ce dernier temps, l'association se bat pour d'abord faire reconnaître la profession et faire entendre la voix de la sage-femme. Quand cette voix-là sera entendue, que la profession réglementée, les gens ont pris conscience que nous ne pouvons pas aujourd'hui vouloir combattre la mortalité maternelle et infantile sans la sage-femme.
Monsieur Ambroka, mais certaines femmes accusent les sages-femmes que vous représentez ici de le maltraiter lors de l'accouchement, même de les blâmer. Cela traduit un manque de prise en charge psychologique. Lorsqu'une femme vient accoucher et qu'elle est blâmée de cette façon-là par les sages-femmes, ça pose problème. Qu'est-ce que vous en dites?
Ce que la population dit, leurs plaintes, nous endossons parce que nous devons réparer ça. Et je répète que nous n'endossons pas parce que les sages-femmes ont fait ça. Je vous informe qu'un exemple simple, très rapidement, comme on a passé du temps. Vous voyez, quand on connaît que, monsieur le journaliste, vous avez une voiture rouge, on connaît que c'est votre voiture. Même s'il y a un chauffeur là-bas, qui n'est pas vous, quand il tamponne quelqu'un en route de route, on va dire, monsieur tel a tué quelqu'un. C'est pour dire que, comme la sage-femme était éparpillée à l'hôpital, il n'était pas gardé à son service clé, qui est la maternité. Alors la maternité était envahie par d'autres professionnels de santé. Pour la population, toute personne qui les rencontre à la maternité, qui l'accompagne pour l'accouchement, il l'appelle sage-femme. Ceux qui ont déjà pris conscience que pour leur grossesse, pour leur accouchement, la planification familiale, le dépistage des cancers du col de sein, c'est la sage-femme qui est professionnelle de premier plan. Ils vous donneront un témoignage parce que à la sage-femme, on a formé comment accompagner la femme avec sensibilité, avec douceur et l'aider à accoucher parce que c'est la femme qui accouche et c'est l'enfant qui naît.
Est-ce qu'il y a manque de personnel des sages-femmes ou bien c'est tout simplement un problème d'organisation interne où les hôpitaux n'arrivent pas à mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut?
Bon, ce qui est vrai, M. Jones, on doit les reconnaître, les sages-femmes sont encore insuffisantes dans ce pays. Le nombre est réduit. Et même quand nous parlons d'autres professionnels là, nous ne sommes pas en train de les condamner parce qu'ils ont fait le travail de la sage-femme. C'est comme ça avec l'aide de nos partenaires, comme il y a une FIA qui s'est investie pour former la sage-femme en appuyant le ministère de l'ESSU pour la réforme du programme, former les sages-femmes, appuyer les sages-femmes sur terrain. Aujourd'hui, nous avons des sages-femmes qui aient une bonne masse critique et qu'ils soient dans des hôpitaux, dans des maternités pour accompagner les femmes.
Monsieur Ambroka, nous venons de faire un tour d'horizon complet sur la situation de la sage-femme en République démocratique du Congo. Mais avant de terminer, je m'adresse avant tout à Madame Lydie Mawelo. Alors, Madame, un petit message à l'occasion de cette journée qui vous est consacrée, parce que vous êtes sage-femme aussi.
Je salue tout et toutes les sages-femmes de la ville-province Kinshasa. Vous êtes fantastiques. Merci beaucoup parce que vous avez répondu massivement à notre marche qui a eu lieu de l'aéroport jusqu'à l'espace Sébastien. C'était le 30 avril. Aujourd'hui, c'est le jour J. Il y a des émissions radio-télévisées par-ci, par-là. Du 11 au 13 mai 2016, les sages-femmes de la ville-province Kinshasa, avec l'appui technique et financier de l'UNFPA, va offrir gratuitement aux femmes de la ville-province Kinshasa le service de planification familiale que nous énumérons Yambanzalemba, Mongafula, Kanluka. Et du 14 mai 2016, nous aurons notre journée scientifique au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères.
Et Monsieur Ambroka Kabeya et Madame Lydie Mawelo, je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions aussi.
Merci beaucoup.
La nouvelle province partira du Nord Kivu, précisément de Beni, où la MONUSCO va intensifier ses actions militaires contre notamment les ADF. Le général Jean Bayo, commandant adjoint de la force onusienne en RDC, l'a annoncé mercredi dernier à Beniville, où il évaluait la situation sécuritaire après le nouveau massacre d'une dizaine de civils dans la localité de Bangachuluna. Les propos du général au micro de Papi Martial Mukeba.
J'ai bien sûr décidé de centrer d'abord de manière prioritaire ma visite sur Eringeti, où je me suis rendu quelques heures après ce nouveau massacre. Nous avons malheureusement compté 17 morts, dont je crois une dizaine de femmes et au moins 3 enfants. C'est un bilan très lourd, ce sont des innocents, c'est des actions absolument condamnables. La sauvagerie de l'attaque, je pense que c'est d'abord ça qu'on doit avoir à l'esprit. Ce que j'ai vu aussi, c'est que ADF utilise toutes les techniques effectivement pour commettre des crimes et déjouer éventuellement l'action de nos forces armées. Ils attaquent à la tombée de la nuit, ils attaquent dans des maisons qui sont en bordure de la forêt, ils sont en uniforme des FARDC. Il y avait aussi parmi les attaquants femmes et enfants. Nos actions contre ceux qui commettent des crimes, contre ces responsables, non seulement ne vont pas s'interrompre, mais vont s'intensifier et nous allons les combattre.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Le temps mort observé pour la tenue du dialogue et le rôle de bons offices de la MONUSCO, c'est en tout cas la question du jour. Charles-Antoine Bambara, directeur de l'information publique de la MONUSCO, répond.
Saforien Katumba, pour le compte de l'explorateur, il y a un temps mort qui se pointe à l'horizon de ce grand forum du dialogue inclusif que le facilitateur Radim Kudjo a bien amorcé pour constituer le comité préparatoire du dialogue. La MONUSCO joue un grand rôle concernant ce processus en RDC. Pourriez-vous nous expliquer le réseau de ce temps mort?
Peut-être que les uns et les autres ne sont pas toujours bien informés de ce qui se passe. Il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de réunions. C'est vrai, monsieur Edem Kodjo qui mène le train de discussion, ce train de rencontre est sur les charbons ardents, mais aussi monsieur Maman Sambo Sidikou qui est le représentant spécial et qui a l'obligation, dans la mesure où c'est la résolution 2277 qui le demande, d'apporter son soutien de bons offices à tout ce processus du dialogue congolais. Il y a d'importantes rencontres qui se tiennent au quotidien. Chaque semaine, j'ai été témoin de plusieurs rencontres entre, en tout cas, monsieur Sidikou et différents acteurs de la classe politique ici à Kinshasa. Une fois de plus, ces acteurs politiques sont de tous bords pour appuyer les efforts engagés depuis le début, en tout cas par monsieur Edem Kodjo de l'Union africaine. Vous savez que l'ensemble de la communauté internationale se tient comme un seul homme pour appuyer cette médiation de l'Union africaine et nous pensons que malgré que tous les problèmes qu'il y a, il y a des avancées. Peut-être pas aussi vite que nous le souhaitons en réalité, mais il y a des avancées. Certains acteurs qui étaient réticents pour ce dialogue ont commencé à adhérer à ce processus. D'autres encore hésitent à venir, mais il y a beaucoup d'efforts qui se passent et nous espérons qu'au bout du compte, nous allons avoir le maximum d'acteurs politiques, en tout cas autour de cette réflexion qu'est le dialogue politique.
Magazine des Nations Unies, portrait d'usine.
Je m'appelle Rigobert Yumandwani Walumba. Je suis né le 5 avril 1954 à Sambika, chef-lieu du groupement Nzelu dans la chefferie de Babé, dans le territoire de Pangiomaniema. J'ai donc 62 ans. Je suis marié, père de 9 enfants et 15 petits-enfants. Je commence mes études primaires en 1960 à Mobanga Ngenda, après avoir perdu 2 ans à cause de la rébellion mouléliste de 1964. Nous quittons Mobanga pour Kasongo et en 1968, j'ai mon certificat avec 84%. Je commence mes études secondaires au collège Saint-Henri qui deviendra par la suite Institut Mala. J'ai mon diplôme en biochimie en 1974 avec 60%. Je travaille dans l'enseignement secondaire jusqu'en décembre 1980 à l'Institut Tchemtchem de Kalima, toujours dans le territoire de Pangui. Aidé par les pères missionnaires d'Afrique ou Père Blanc et les sœurs Justeline, à travers le père Guy Danens, et par l'intermédiaire d'un aîné félicien Mundele Bumbukanga, je vais à l'ISP de Bukavu, qu'on appelait à l'époque Sorbonne du Zaïre. De 1980 à 1983, j'ai mon graduat en biologie chimie avec distinction. De 1983 à 1985, j'ai fait ma licence en biologie que je termine avec satisfaction 68%. De 1988, je suis parmi les premières victimes de l'assainissement de la Soninki en février de cette année 1988. En avril, je réintègre l'enseignement et je suis nommé directeur des études à l'Institut Mala de Kasongo. L'année scolaire suivante, 89-90. J'ai une promotion, prêté des études de l'Institut Moussoukou de Kalima jusqu'en 1995. En 1995, je commence le journalisme à Kindouala KFM avec comme premier formateur Amoury Tambwe Kahenga, directeur adjoint RTNC chargé des langues. En juillet 2002, je commence ma carrière à Okapi en pleine guerre Maï-Maï RCD. En 2005, je suis désigné secrétaire de rédaction de Radio Okapi Kindou et à ce titre, mon travail consistait alors à diriger les séances des conseils de rédaction, les choix des langues, corriger les éléments des collègues, assurer l'envoi et le suivi des éléments. Cela est pour les news et pour les magazines. Mon temps libre, je le partage entre mes enseignements et mes recherches en plutôt sociologie, mais aussi la lecture et la télévision avec l'émission Science et Vie. Pour la musique, outre la musique classique et pour mes méditations, il y a des penchants pour la musique congolaise par génération. Pour la première ou deuxième génération, il y a Nico Kassanda, Rochero, Luambo et Jano Bombenga. La génération suivante, il y a Papa Wemba, Nyoka Longo, Redi Amisi, Mamou National Chalamwana. Et pour les jeunes, Lokwa Kanza. Pour les repas, la banane plantain au poisson ou au makayabo et les légumes amers, mboka chungu, ndunda bololo. Ensuite, fufu de manioc au poisson ou au chenille. Quant au projet d'avenir, outre ce que l'avenir me réserve et que je ne connais pas, je continue mes recherches en phytosociologie pour ma thèse de doctorat sur les champignons. Sinon, à force de faire ce travail 21 ans durant, je l'ai aimé, ainsi que le théâtre classique, car je suis aussi acteur et metteur en scène.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Un seul rendez-vous que nous avions retenu pour vous le 15 mai, c'est la journée internationale des familles. C'est la fin du magazine des Nations Unies. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez le réécouter, en tout cas, vous allez sur notre site internet, le www.radiocapi.net. Ce magazine a été mis en onde par Dieudonné Nyangasa, sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la coordination et au reportage Jean-Pierre Elali Coco, au reportage également Honoré Mistenga Kalala. Moi, c'est Tina Salama. À très bientôt. Bon dimanche chez vous.